Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, nous sommes le mercredi 27 mars. Bonjour Marine.
Bonjour Manu, bonjour à tous.
Qui est en train de régler son micro. Et bonjour Manu.
Bonjour.
Alors un sommaire de Cinérama aujourd'hui encore consacré à des films qui sortent aujourd'hui. Enfin un seul hein, d'ailleurs, Les Amants Passagers de Pedro Almodovar. Et puis des films qui sont déjà sortis la semaine dernière, n'est-ce pas Marine?
Oui, moi je vous parlerai de The Place Beyond the Pines avec Ryan Gosling. Et du coup, je pensais en fait faire un focus sur lui, enfin faire un petit peu son éloge, car c'est quelqu'un que tout le monde aime beaucoup. Et en fait, en creusant un peu dans son passé, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de quoi faire une petite critique un peu moqueuse plutôt que de l'encenser, voilà. Pourtant, c'est pas mon genre d'être moqueuse, mais du coup, j'ai pas trop pu résister à la tentation.
Non, c'est bien le contre-pied, parfait. Et toi, Manu?
Bah, moi, je vous parlais d'un film qui est sorti il y a 52 ans, par contre. Hein. Donc, L'assassin d'Elio Petri. Non, il est ressorti en salle l'été dernier. Et là, il sort en DVD, Blu-ray, ce mois-ci. Ouais.
Et puis on écoutera Solveig Anspach et puis Florence Loire-Écaille, actrice de Queen of Montreuil. Mais on commence avec Les Amants Passagers.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie?
Sur Divergence FM.
Voilà le nouveau film d'un réalisateur qui, malgré son talent et ses nombreuses participations, n'a jamais eu de palme d'or à Cannes. Alors certains réalisateurs font à peu près bien les mêmes films. Lui, Pedro, il passe du drame à la comédie, ou plus sûrement la comédie dramatique. Après La piel que habito, qui n'était pas vraiment drôle, et Train de briser, qui était un pur drame, le réalisateur espagnol revient avec une comédie décomplexée. Il le dit lui-même, Les Amants Passagers est une comédie irréaliste et métaphorique. Alors irréaliste, oui, nous sommes dans un avion qui, pour des raisons techniques, plutôt que de se rendre à sa destination au Mexique, va devoir faire des ronds en l'air avant de se poser sur un aéroport sécurisé. Donc ça encore, c'est réaliste, mais ce qui l'est moins, ce sont les passagers, les membres d'équipage et les dispositions prises pour gérer l'urgence. Une voyante vierge, un acteur qui a trop menti, une maîtresse SM angoissée, un banquier véreux, un couple en lune de miel avec le mari qui fait toujours dormir sa femme, un homme très mystérieux et puis avec ça, un personnel navigant complètement gay. Alors, il y a les gays assumés, il y a les refoulés et puis il y a les bi. On a les trois options. Oui, on ne verra que trop peu les femmes hôtesses de l'air, puisque contrairement aux hommes qui sont en charge des passagers classe affaires, eh bien les femmes hôtesses de l'air s'occupent de la classe éco, mais pour gérer l'urgence et le stress, ils ont drogué tout le monde. Et là, c'est métaphorique.
Il y a du nouveau?
Ouais.
Et?
Mieux vaut que tu saches pas.
Tu peux entrer?
Mademoiselle, vous n'avez pas le droit.
Il se passe quelque chose? Je suis sensitive, moi. J'ai des pouvoirs.
Vous avez senti quoi, au juste?
Qu'il va se produire un événement énorme qui nous affectera tous.
Qu'est-ce qui se passe sur ce vol? Vous nous cachez quelque chose?
Peut-être qu'on atterrira jamais à Mexico.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
L'un des trains d'atterrissage ne fonctionne pas.
Ils veulent me liquider. Me regardez pas comme si j'étais folle.
Vous pouvez nous dire ce que vous avez senti exactement?
J'ai senti qu'aujourd'hui... j'allais perdre ma virginité. I'm so
excited. Mes collègues et moi nous efforcerons de vous rendre le voyage le plus agréable possible. Ne me demandez pas comment.
Alors c'est donc entre l'espace classe affaires et le cockpit que tout va se jouer. Chaque personnage va durant ce voyage un peu mouvementé apprendre quelque chose sur lui et changer sa conduite. Donc ça c'est limpide. L'avion et sa course qui ne mène nulle part représentent l'Espagne prise dans les difficultés économiques et la fin ne laisse aucune illusion sur la situation. Alors Almodovar, on l'a compris, ne fait pas dans la thèse économique, hein, mais dans le divertissement à peu de frais. Si Almodovar nous a fait monter dans les airs, c'est pour passer un doux moment, nous arracher au sol, pour peu qu'on soit concerné d'ailleurs par la crise ambiante. Le moment est si doux que les trois stewards gays, nous font une chorégraphie bien relevée pour que le temps passe plus vite, histoire aussi d'exagérer, eh bien, d'aller un peu plus loin dans les clichés. Parce qu'on peut quand même l'avouer, ça n'est pas un grand film, mais une récréation. Et là, il n'y a pas d'élément véritablement dramatique, ou alors il tombe à plat. C'est plutôt dans les situations parfois invraisemblables, donc comme la chorégraphie, les shoots d'alcool et de mescaline, et puis les dialogues, on prend son plaisir. Et avec ça, les acteurs ne gâchent rien. C'est très coloré, avec c'est limite kitsch, hein, mais plutôt coloré. C'est un des premiers films qu'il tourne en vidéo, en numérique, voilà. Et donc voilà, les acteurs sont très bien. Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une comédie très très légère. Ça sort aujourd'hui, Les Amants Passagers, c'est le dernier Pedro Almodovar.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
The Place Beyond the Pines est un film noir qui fait dans le traditionnel. Personnages mutiques, ambiance glauque, décors de forêt, de pain, non de pin évidemment, propre à cacher les crimes, scénarios tragiques dont personne ne sort indemne et dont les protagonistes sont des anti-héros. L'originalité du film est d'être structurée en trois parties. La première s'intéresse ainsi au personnage de Ryan Gosling, un cascadeur un peu loser qui se découvre un jour des velléités paternelles, ce qui le mènera à commettre des braquages en se servant de ses talents de motard. Oui, ça ressemble au film Drive et ça a le goût de Drive, mais heureusement, les deux autres parties du film s'éloignent du polar de Nicolas Winding Refn. La deuxième suivra l'évolution d'un flic incorruptible et arriviste, joué par un très bon Bradley Cooper, tandis que la dernière partie est axée sur les destins croisés des deux fils des précédents personnages. Une manière de mettre en exergue la propagation de la violence à travers les générations.
Mesdames et messieurs, le voici, Luc le Magnifique.
Elle est là, Romina ? C'est qui, lui ?
C'est ton fils. J'ai été plus d'un an sans nouvelles. T'as foutu le camp.
C'est mon fils. Ma place est près de lui. Mon père était pas là et regarde ce que je suis devenu.
Et comment tu comptes t'occuper de lui ?
La photographie sculpte à merveille l'ambiance clair-obscur d'une ville de l'état de New York, banlieue banale en bordure des bois, où les classes moyennes s'échouent en rêvant de s'enfuir un jour. Si le drame n'est souvent présent qu'en sourdine, des scènes d'action nerveuses viennent pimenter un film assez long, au rythme parfois complaisant. Les plans séquences ne révolutionneront pas le cinéma américain, mais demeurent très efficaces, leur but étant davantage d'insuffler une tension qui présage de la tournure des événements plutôt que de se ranger du côté du divertissement visuel. Si Derek Chienfrens, le réalisateur, avait joué un rôle important dans la carrière de Ryan Gosling en le faisant jouer dans le remarqué Blue Valentine, sa relation professionnelle avec l'acteur semble ici atteindre ses limites. On sent une fascination palpable du metteur en scène pour son comédien, à tel point que le reste du film pâtit de sa disparition au bout d'une heure de pellicule. Son personnage s'avère également manquer d'épaisseur, les attitudes taiseuses de Gosling peuvent s'apparenter à un jeu tout en retenue, mais également à un effacement un peu fade selon la manière dont il est filmé. Dans The Place Beyond the Pines, on ne sait trop de quel côté son interprétation se situe, mais sa présence est si primordiale pour le réalisateur qui le dirige que son absence semblera ensuite avoir dépeuplé tout le film. Et ce, malgré l'interprétation charismatique de Dane DeHaan, entre autres, qui joue son fils adolescent, que l'on avait découvert dans Chronicles et qui accuse déjà une ressemblance frappante, je trouve, avec un certain DiCaprio. Relégué à l'état de satellite qui gravite autour d'un Ryan Gosling omniprésent, même lorsqu'il n'est pas à l'image, les autres stars du film, y compris Eva Mendes ou Ray Liotta, qui remplissent pourtant très bien leur office, semblent être relégués à l'état de figurant.
T'as un talent, il faut que tu t'en serves. Parce que toi, avec ton talent, ça fait Shazam.
Tous ceux qui veulent rester en vie, lèvent les mains en l'air.
Ici Alpha 5, j'ai pris le suspect en
cas. Ici à 04, moteur visuel.
Dis-lui que ça vient de moi. Je suis toujours son père, j'ai le droit de lui faire des cadeaux.
Nous venons fouiller votre maison.
Pourquoi ?
Nous cherchons l'argent que Luke Glanton aurait pu vous remettre.
14 000 $.
C'est au héros que revient la part du lion.
Ça, c'est votre problème.
Non, c'est notre problème à nous tous, et je viens vous en parler parce que c'est mon devoir.
Je veux m'en faire deux d'un coup.
Toi, debout !
Je vais pas te laisser nous faire tomber tous les deux.
Il y a bien une solution, mais elle va pas te plaire.
Tu sais ce qu'on dit ?
Si tu files comme l'éclair, tu t'écrases comme la foudre.
The Place Beyond the Pines, c'est le troisième film de Ryan Gosling cette année, puisqu'il y a un mois sortait Gangster Squad et que nouveau Nicolas Winding Refn viendra conclure cette trilogie goslingienne dans peu de temps. Une année 2013 en forme de chant du cygne pourtant, puisque le comédien a annoncé il y a quelque temps qu'il était l'heure pour lui de faire une pause afin de se recentrer sur son métier et ses envies. Alors, je ne sais pas qui a écrit ce communiqué de presse pour lui, mais en tout cas, se faire part de retraites anticipées et temporaires a beaucoup plus remué la toile que celui d'un certain Nicolas Sarkozy. Revenons donc sur sa carrière, à Ryan, pas à Nicolas Sarkozy, afin d'analyser les raisons du succès. Alors, j'ai tenté de comprendre pourquoi Ryan Gosling faisait trembler le monde entier et, sincèrement, le dossier que j'ai constitué sur lui n'est pourtant pas des plus glorieux. Reprenons depuis le début. Ryan, canadien de son état, est né dans une famille mormone. Ça commence bien. Il a commencé dès son plus jeune âge devant la caméra, mais pas celle des Frères Dardenne, non celle du Mickey Mouse Club qu'il animait à grand renfort de chansons et de chorégraphies. Il a ainsi côtoyé d'autres futures célébrités qui, elles, n'ont pas attendu d'être majeures pour devenir connues, telles que Britney Spears, Christina Aguilera ou Justin Timberlake. Mais Ryan a préféré délaisser la pop pour du gospel gothique. Et sachez qu'il joue également du ukulélé. Ouais. Avant qu'il n'embrasse une carrière cinématographique, on l'a d'abord vu dans les incroyables séries Fais-moi peur ou Chair de poule, ce qui signifie donc que je l'avais découvert bien avant tout le monde, puisque je regardais ça quand j'avais 8 ans. Je regardais les Minicums. Et il a même interprété le rôle de Hercule, ce qui lui confère un potentiel Guéphrény qui peut faire la différence dans une carrière, rappelons-le. Rappelons également que Ryan n'est officiellement devenu beau qu'à 30 ans. Sa carrière cinématographique, pas inintéressante au demeurant, hein, le laissait quand même stagner auparavant dans des rôles intellectuels, pour ne pas dire de moche, c'est-à-dire de juif nazi ou de prof toxicomane. La majeure partie des récompenses qu'il a remportées sont des Teen Choice Awards, décernés comme le nom l'indique par des individus prépubères qui ne vont au cinéma que pour se rouler des pelles, donc qui ne suivent pas grand-chose au film, alors on ne peut pas vraiment dire que ce soit légitime comme récompense. Et enfin, l'un des rares rôles parlants qu'il ait eu, parce que Drive ça ne compte pas, et qui fut encensé par les critiques, fut son interprétation dans une comédie grinçante intitulée Une fiancée pas comme les autres, dans laquelle il joue un loser qui se persuade en fait que la poupée gonflable qu'il a achetée sur internet est une vraie femme et qu'il en est amoureux. Bon, je voudrais juste ajouter qu'il sort quand même avec Eva Mendes, donc pour moi la réalité rejoint un peu la fiction, mais c'est, voilà, c'était juste comme ça. Et voilà, donc j'espère que je vous ai appris toutes sortes d'informations hyper intéressantes avec la bonne foi qui m'est propre et que vous ne regretterez pas trop le départ de Ryan Gosling du monde du 7e art.
Peut-être qu'il reviendra, il a commencé avec Disney, hein, c'est ce que tu disais.
Hein,
qu'il
reviendra avec Disney.
Avec Disney, voilà. Ouais.
Qui sait ? Peut-être Joaquin Phoenix, il va peut-être faire un faux film sur lui après.
Sur sa carrière de joueur de ukulélé ouais, et de chanteur de gospel gothique, peut-être. Qui sait ?
Merci en tout cas Marine, donc ça continue sur les écrans et je pense que ça fonctionne bien quand même. Hein, il est attractif, c'est ce que
tu dis. En tout cas c'est un film plutôt réussi, Manu l'a vu aussi.
Très bien, enfin, très réussi, enfin, sur le coup, c'est un film qui marche beaucoup à l'affect, et qui est chargé d'émotions. Et c'est vrai que peut-être 2-3 jours après, le film est un peu redescendu, parce qu'il y a un côté un peu scolaire notamment dans la construction en 3 parties, il y a aussi tout un discours sur la culpabilité qui n'est pas toujours très très fine, et puis le film mélange un peu les styles, enfin voilà, il n'est pas non plus, c'est pas un film parfait, un peu dans la lignée de certains films de James Gray je trouve, voilà.
Alors on lui a justement reproché d'avoir voulu faire ça et de ne pas avoir atteint ce niveau d'excellence.
Ben non, parce qu'il y a vraiment...
Mais c'est vrai qu'il y a oui, une tonalité qui fait beaucoup penser à ça.
Surtout la deuxième partie, en fait. Mmh. Voilà.
Et d'ailleurs, on peut ajouter, pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, Blue Valentine, le premier film du réalisateur.
Derek Sian France, c'est ça ?
Derek, alors moi je dis Sian France.
Ouais,
c'est comme Sian France, oui.
Hein. Sian France.
Ouais. Voilà, donc merci, on passe à la suite.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Sur Divergence FM.
Et le prochain film, il s'agit de Queen of Montreuil de Solveig Anspach. Et avec Florence Loirecaille. Alors, la réalisatrice de Holecker revient avec une comédie qui part d'un sujet grave, hein, le deuil. Agathe a perdu son mari. Elle revient d'Asie avec les cendres de celui-ci. Mélancolie, prostration, questionnement. Agathe a quand même l'avantage d'être entourée d'abord par des Islandais rencontrés à l'aéroport. Une mère et son fils directement échappés du précédent film de la réalisatrice, film qui s'appelait Baksun et qui se déroulait en Islande. Et elle est aussi entourée par des voisins, alors de celui qui vient lui taper régulièrement les 6 euros pour ses clopes, un ancien amant. Et n'oublions pas un phoque oublié dans le déménagement du zoo de Vincennes, un phoque qui sera une sorte de catalyseur, eh bien, sa douleur. Comédie légère, fantaisiste, tournée à Montreuil sur la terre ferme et dans une grue. Queen of Montreuil obéit à un rythme lent et puis enchaîne des situations qui peuvent être drôle ou moyennement drôle.
J'ai trouvé que ça ne savait pas trop où se situer. C'est absurde, il y a un petit côté un peu surréaliste, assez mignon, assez frais. Mais au final, c'est jamais vraiment hilarant. Et,
non.
Je veux dire, faire des blagues sur une vieille qui fume des joints. Bon, on peut pas faire 2 heures de film là-dessus quand
non,
même.
Non, mais ça par contre,
très drôle.
Alors ça, c'est un personnage qui existe déjà dans Baksun, mais juste, moi, je pense que Baksun, son précédent film, est beaucoup mieux. Il se passe en Islande et il y a toujours cette poétesse qui est vraiment qui est pas une actrice à la base et qui est une femme qui a, je sais pas, 50, 60 ans et qui fume véritablement des joints, je pense,
d'accord,
dans la vie. Et qui en fume aussi.
Après, tous les personnages sont extrêmement intéressants et extrêmement attachants. Enfin, même son fils ou la veuve. D'ailleurs, là, je pense que Florence Loirecaille a vraiment trouvé un rôle qui va la révéler. Non, c'est ça fait une espèce de. Ça fait un peu comme un zoo avec plein de personnages étranges qu'on a foutus comme ça en vrac. C'est un petit film sympathique.
C'est un petit film sympathique. Alors, on va écouter quand même la réalisatrice et puis l'actrice en parler.
Pardon, qu'est-ce que c'est?
Solveig Anspach, je crois que je suis cinéaste, maintenant je peux l'admettre, l'avouer, le dire. J'avais du mal à le dire avant, je disais que je faisais du tricot, mais voilà, maintenant c'est dit.
C'est mon mari. Je suis toute seule maintenant. Florence Loirecaille, je joue la comédie. Voilà, je suis une petite bête.
I'm alone now. Alone.
Bonjour.
Non, c'est Islande. C'est en transit, là.
Oui.
La compagnie islandaise a fait faillite.
Je tiens à dire que ce film est une comédie qui a comme fondement l'histoire d'un deuil que traverse Agathe, Florence Loirecaille. Agathe revient avec l'urne, avec les cendres de son mari décédé. C'est une urne qui ressemble à une petite pagode, une sorte de petit bateau. C'est un petit peu, ça va être un petit peu son doudou, mais elle pourra en parler peut-être mieux que moi. Et puis, la robe, c'est quelque chose qui va traverser le film et passer d'un personnage à l'autre, qui va faire du liant entre différents personnages.
Here in Montreux, where can I buy it?
Buy it, c'est quoi, buy it?
Buy
it! Ah oui! Alors, tu peux le buy it là, tu vois, tu peux le buy it chez mémé, là-bas, tu peux le buy it un peu partout, en fait.
Moi, quand je joue, je pense pas à ce que je vais jouer, en fait, enfin, comment dire.
C'est ça qui est bien.
Oui, c'est-à-dire, je me dis si c'était vrai. C'est ça l'élan de base. Après, il y a Solveig en face, elle me donne un peu une direction, et puis on y va ensemble, quoi. Après, encore une fois, c'est que ce soit une manifestation de la folie, je trouve ça aussi intéressant, quoi. Mais c'est bien de laisser les choses en suspens. Oui, elle est un petit peu borderline.
C'est ça, où le phoque est mort. Il est très tout seul, là-dessous.
Déprimé. Bon.
Oui, déprimé, c'est ça.
L'idée première, c'était, il y a peut-être des gens qui ont vu un autre film qui s'appelait Baksun. Pour ceux qui ont vu Baksun, c'est une sorte de suite possible de Baksun, mais on n'est pas obligé de l'avoir vu. Donc on est parti de l'idée qu'à la fin de Baksun, ils partaient en Jamaïque. Là, ils reviennent de Jamaïque, mais comme c'est la crise en Islande, ils sont coincés à Roissy. Et du coup, ils vont aller squatter la maison d'Agathe, Agathe qui ne va pas très bien, et ils sont un peu comme des oiseaux coucou, c'est-à-dire ils squattent les nids des autres. Et comme ils sont islandais qui viennent d'ailleurs, ils vont avoir une sorte de recul par rapport à la situation et aider Agathe d'une manière un petit peu étrange. Et ils vont l'aider à sortir de ce deuil. Moi, j'avais envie de revenir à la question que vous avez posée à Florence tout à l'heure. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que on avait, avec Jean-Luc Gaget, avec qui j'écris, on avait envie de faire une comédie, mais qui est du fond, donc qui est l'histoire de ce deuil, parce que je trouve que dans la vie, on traverse chacun d'entre nous à un moment donné ou à un autre des épreuves pas faciles, et que l'humour aide énormément à traverser ça. Et donc l'idée, c'était d'écrire des situations qui soient un peu ubuesques, un peu étranges, un peu... ça s'appelle de comique de situation, mais que les acteurs, que les personnages, eux, soient vraiment dans la sincérité. Florence a parlé de sincérité tout à l'heure, et c'est ça un peu pour nous la base. C'est-à-dire qu'on ne crée pas du comique en rigolant, ils rigolent pas ensemble, ils ne s'envoient pas des tartes à la crème dans la figure, mais ils sont dans des situations dingues, et eux, ils sont sincères dans ce qu'ils vivent.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait la dernière fois aussi, c'est que tout est inversé, en fait. L'amour fait pleurer et la mort fait rire, en fait. C'est ça, en fait, qui crée le comique aussi.
Serge n'est pas de boulot, mais l'on se nourrit très bien avec des légumes.
Ouais, un phoque. Un pute à baignoire.
Bonjour, c'est ici chez Laurent Cadiche.
C'est sa nervosité qui m'a plu, ce côté électrique. Et en plus, ça marche très fort entre nous, si vous voyez ce que je veux dire.
Laurent, il est mort, moi, je suis sa veuve. Donc il va falloir vous faire baiser par quelqu'un d'autre.
Moi, j'avais envie de filmer le quartier où je vis, qui est à la frontière de Montreuil et de Bagnolet, à hauteur de femmes et à hauteur de grues, parce que je connais bien mon quartier, mais je ne l'avais jamais vu comme ça d'en haut. Et puis c'est toujours l'idée aussi que cette cabine de grues est un peu comme un nid. Et Anna, la poétesse islandaise, va squatter ce nid, qui en fait est le nid de Samir Gesmi, qui joue le grutier. Et donc elle va dans des lieux qui ne sont pas ces lieux, et du coup, elle change ce qui se passe autour d'elle, elle crée des relations avec les gens. Et donc voilà, c'était l'idée de montrer cette ville un peu autrement, de montrer la banlieue autrement, parce qu'on nous montre toujours la banlieue comme un lieu avec beaucoup de violence, des voitures qui brûlent, etc. Mais c'est pas que ça. Moi, je trouve que dans mon quartier, dans ce quartier, il y a beaucoup de solidarité entre les gens et différentes ethnies qui vivent bien ensemble. Et j'avais envie que la bande-son soit faite aussi de langues et d'accents différents, que ça soit ça un peu la partition musicale.
Certes, certes, je n'ai pas de boulot, mais quel besoin ai-je d'aller au restaurant ? Non, non. Certes, certes, je n'ai pas de boulot, mais je peux très bien me cuisiner un plat.
Vous parlez de Montreuil. Alors, Montreuil, c'est quand même une banlieue, effectivement. C'est tout près de Paris, mais ça a été investi par... alors, il y a un côté populaire, mais il y a aussi un côté que certains qualifieraient de bobo. Hein, voilà. Mais vous avez accentué ça sur ce côté. Voilà, il y a de l'entraide. Et finalement, qu'est-ce qui peut sauver de la solitude, on a l'impression, et du deuil ? Enfin, qu'est-ce qui peut sortir quelqu'un du deuil ? Ça va être l'entraide, ça va être peut-être des nouvelles têtes. Et voilà, c'est ça. Hein. C'est aussi simple que ça.
Bah, c'est très, très simple. C'est plus agréable de vivre à plusieurs que seul. Et que les familles qu'on s'invente sont souvent plus formidables que celles qu'on a déjà. Et que ouais, moi ça m'aide dans la vie d'avoir mes amis et mes voisins. Enfin, moi je trouve que c'est quelque chose de capital dans la vie et dans la mienne en particulier. C'est assez simple en fait, mais je trouve qu'on l'oublie trop souvent. Je veux dire, la manière dont on va parler à la boulangère le matin quand on achète sa baguette tradition, ça va influer sur et sa journée et la mienne. Je veux dire, si on est désagréable l'une avec l'autre, ben là, ça commence d'un mauvais pied. Si on s'écoute et qu'on se parle un minimum, nos deux journées vont être meilleures. C'est très bête, en fait, très simple, mais ça marche, moi, je trouve, dans la vie.
When a woman has overcome the death of her husband, she will be queen.
C'est quoi ce que vous parlez, là ?
Islandaise.
Islandaise.
My name is Selim Lumla, and this is France.
Hello. Vive la France.
Oui, vive la France.
Si les gens vont voir le film, et j'espère qu'ils iront le voir, il y a tout un truc sur le fait que les marins de Paimpol sont allés pêcher en Islande dans un fjord qui s'appelle Fossklusfjörður, et ils ont soi-disant eu des histoires d'amour avec les Islandaises parce qu'elles-mêmes, leur mari était en mer, et que donc il y aurait eu des enfants nés de ces unions. C'est pas prouvé, mais c'est un truc qu'on aime bien raconter en Islande, que c'est le cas de tous les Islandais qui ont les yeux marrons. Ils sont d'origine française parce qu'ils trouvent ça très chic d'avoir des origines françaises, parce que Il y a ce mythe du Latin lover, en fait, et du français très poli, qui va vous inviter à dîner, va vous sortir avant d'oser vous toucher, etc. Parce qu'en Islande, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc, ils aiment beaucoup croire en ça, quoi.
Certes, certes, je n'ai pas de boulot et ne peux donc pas non plus m'acheter des pâtes, non, non, certes, certes, je n'ai pas de boulot, mais je peux très bien bouffer du canigou.
Et voilà, donc ça c'est une chanson qu'on entend dans le film Queen of Montreuil, et vous l'avez en intégralité d'ailleurs, comme une bande-annonce hein, finalement sur Internet. Voilà, Queen of Montreuil qui passe encore au cinéma Diagonal.
Cinérama sur Divergence FM.
Donc passons à une sortie donc DVD et Blu-ray avec L'Assassin de Elio Petri. Parmi d'ailleurs les grands cinéastes italiens, Elio Petri est peut-être le plus méconnu et le plus singulier d'entre eux. Méconnu car en dépit de deux ou trois œuvres cultes, ses films ont été peu vus, voire pas du tout. Singulier car son approche du cinéma est assez hybride, à la croisée du cinéma de genre, des grands formalistes comme Antonioni ou Pasolini, et puis des satiristes comme Dino Risi ou Comencini. Il a réalisé, bon, entre autres, un étonnant film de science-fiction, La dixième victime, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Mastroianni, qui est une sorte de version 60s et assez psychédélique du Prix du danger de Boissé. Mais aussi un formidable film onirique sur un artiste en panne d'inspiration. C'est un coin tranquille à la campagne, hein, entre le giallo et puis le film d'auteur existentialiste. Un peu. Enfin, c'est assez curieux. Voilà, L'Assassin, c'est sa première œuvre de fiction, datant de 61, pose les bases de sa vision décalée et iconoclaste du 7e art. Le film raconte le calvaire sur une journée d'un antiquaire qui se voit accusé du meurtre de son ancienne maîtresse. Par une série de flashbacks revisitant le passé du suspect numéro 1, Petri dresse le portrait d'une ville, Rome, qui ressemble à n'importe quelle autre ville. Anonyme et sans charme, sans le côté pittoresque à la Fellini, elle semble écrasée sous le poids de la rigidité administrative. On pense fortement à deux romans de Kafka, Le procès et Le château. Notre anti-héros est plongé dans un monde froid et sans pitié. S'il n'est pas sûr d'être coupable, il n'est pas innocent non plus. Petri dissèque la mesquinerie et l'indifférence au monde de son personnage avec un sens de l'ironie qui prendra d'ailleurs toute son ampleur dans son chef-d'œuvre, qu'il réalisera donc une quinzaine d'années plus tard, donc 10 ans exactement, Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, qui était une parabole géniale sur la corruption et qui conduit à la folie. Donc en revenant sur son passé, l'amnésique antiquaire retrouve une mémoire perdue et se rend compte de la vacuité de son existence, son égoïsme, sa veulerie. Le tout est filmé dans un noir et blanc magnifique qui est éclairé par Carlo Di Palma, qui était le chef-op de Antonioni et plus tard de Woody Allen. Enfin, un des chef-op de Woody Allen, hein, puisqu'il en a eu beaucoup. Entre le film policier existentialiste et la comédie cruelle, Assassin doit aussi sa réussite à l'interprétation très distanciée et très classe de Mastroianni dans le rôle éponyme. C'est lui l'assassin. Et c'est aussi un grand film moral et non moraliste qui nous renvoie à nos propres bassesses quotidiennes, notre façon individualiste de réagir face à notre environnement. Bref, bon, 40 ans, 50 ans après sa réalisation, je trouve que c'est encore un film qui dit des choses importantes avec un style très très affirmé déjà pour un premier film.
Et il y avait eu une rétrospective Elio Petri au cinéma il y a 2-3 ans, je crois, hein, qui avait été très appréciée. Ouais.
L'an dernier, je crois.
Ah, c'était l'an dernier.
Il me semble. Hein. Enfin, pas le dernier, c'était l'avant-dernier cinéma. Mmh. Ah oui, il y a des films à voir, comme La classe ouvrière, Irado Paradis, qui était un vrai chef-d'œuvre. Enfin, il y a beaucoup de films à découvrir d'Elio Petri. Il n'en a réalisé que 12 longs-métrages. Hein. C'était pas un réalisateur très prolifique, mais c'est un des réalisateurs les plus importants italiens.
Et donc à peu près tout est disponible en DVD, en tout cas là c'était une réédition, donc avec des bonus, tout ça. Fin...
Oui, L'Assassin est disponible, Enquête au-dessus du citoyen au-dessus de tout soupçon est disponible, La dixième victime était disponible et c'est à peu près tout.
D'accord. Bon. Merci en tout cas. On peut en terminer avec une chanson pour ma mère. Le réalisateur, c'est Franca, mais on ne connaît plus son prénom, Marine. Hein. En tout cas, on a vu le film. Un film avec Patrick Timsit, Dave, et puis Sylvie Testu.
Sylvie Testu, qui on ne sait pas ce qu'elle vient foutre là.
Cachetonné. Bon, je ne sais pas.
Ça arrive souvent dans
c'est
les navettes quand on
statut,
voit un bon acteur.
Hein. On est d'accord que c'est assez nul. Moi, je me suis complètement endormie. Vraiment, ça ne m'a pas du tout tenue en haleine. C'est ni drôle, ni émouvant. Et du coup, pour une comédie dramatique, ça pose un peu problème. Je pense qu'il n'y a absolument aucune émotion qui se dégage de ce film. C'est complètement convenu. Les blagues tombent à plat. Et puis, il y a Dave qui vient faire son numéro, tout fier de pouvoir avoir un rôle.
Ah bah voilà. C'est Dave hein, qui se fait enlever, voilà, parce qu'il est en gala dans les Ardennes belges. Et puis il y a la mère d'une
famille bien rurale, voilà, hein, bien stéréotypée, voilà, qui elle est fan de Dave
et qui va bientôt
mourir. Alors il kidnappe Dave pour qu'il vienne chanter une dernière chanson pour leur mère. Ça, voilà.
C'est superbe. Voilà. Donc oubliez une chanson pour ma mère.
Tout est raté, même le brushing de Dave dans ce film, tout.
Alors, ce qui était amusant, hein, c'est qu'on a vu le matin même en projection presse, là encore, le film de Blue Bill, hein, c'est
Blue
ça
Bill.
Hein.
Blue Bill.
Boulet Bill.
Et Marciano, sinon tu dis de Marciano, c'est l'autre réal.
Donc, Les Gamins, qui va sortir un peu plus tard au mois d'avril. Et
qui est très marrant.
Qui est très drôle. Enfin, nous, on avait beaucoup ri. Et en plus, il y avait donc Iggy Pop qui jouait son propre rôle dans le film. Ici, on s'en fout.
On n'a pas le droit de le dire normalement.
Et donc, on avait le matin Iggy Pop et l'après midi, on avait Dave dans les Ardennes belges. Enfin, donc, ça ne l'a pas du tout fait.
Oui, c'était assez révélateur de l'énorme fossé qu'il y avait entre les deux films, au niveau humour et qualité.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
Et on termine avec l'agenda. Demain, au Diagonale, à 20h, d'une école à l'autre de Pascal Diez. C'est une séance suivie d'un débat avec la réalisatrice. Et puis, il y a aussi au Ciné-Club Jean Vigo, encore un grand film italien, Ri Amer, de Giuseppe De Santis. Vieux film de 1949.
Avec Sylvana Mangano, qui a les cuisses à l'air, en mini-short pendant tout le film.
Il y a beaucoup de femmes qui ont les cuisses à l'air, effectivement. C'est un film assez... Oui,
à l'époque, c'était un peu osé.
C'était très osé, hein, oui. Au Diagonale, Vélotopia, c'est vendredi 29 mars à 18h. C'est un film d'Éric Fretel qui met en avant tout simplement le vélo. Pourquoi faire du vélo et pourquoi c'est bien le vélo. C'est un tarif unique à 5 euros et après, tout le monde pourra en discuter du bienfait du vélo. Le même soir à 20h, c'est une avant-première. C'est la maison de la radio de Nicolas Philibert et Nicolas Philibert sera présent. Il sera présent aussi le lendemain. À Alès, à Itinérance, ce sera à 17h, c'est moi qui présenterai la séance, donc vous pouvez y aller. Ensuite, le lundi 1er avril à 11h, il y aura une avant-première, c'est Quartet, film de Dustin Hoffman. Voilà. Et ce sera aussi au Diagonale, donc quasiment tout se passe au Diagonale, mais aussi le festival Itinérance qui se termine ce dimanche avec plein d'avant-premières et Nuit Zombie ce samedi.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Ainsi s'achève Cinérama. On se retrouve la semaine prochaine. On remercie Bruno, la technique.
Et juste après, à suivre l'émission 24 notes secondes consacrée cette semaine à Bernard Herrmann et le cinéma fantastique.
Voilà. Merci.
Merci.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.